Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Plus de 500 maisons et des écoles inondées depuis 3 jours à Ombo Nord et Sud, à la limite entre Walikale au Nord Kivu et Kale au Sud Kivu. Situation consécutive à la crue des deux rivières après des fortes pluies sur la zone le week-end dernier. Nord Kivu, la commune rurale de Mangina à Beni, vidée de ses habitants après des violents affrontements hier lundi. Les combats opposaient les FARDC à un groupe des présumés Mai Mai. La société civile locale dénonce l'exécution sommaire de 6 civils par l'armée. Et puis, l'invité de ce midi, Augustin Mangemossi, docteur en géopolitique, il salue le déploiement des troupes de la SADC dans l'est de la RDC tout en encourageant l'État congolais à définir un mandat clair avec ses troupes régionales pour que leur retrait ne pose pas de problème dans l'avenir. Madame, Messieurs, bonjour. Plus de 500 maisons, y compris quelques écoles, sont inondées depuis 3 jours dans les agglomérations de Ombo Nord et Ombo Sud. C'est à cheval entre le territoire de Walikale au Nord Kivu et celui de Kale au Sud Kivu. Selon des sources sur place, la catastrophe est causée par le débordement des eaux des deux rivières à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur la zone la nuit de samedi à dimanche dernier. On ne signale pas encore des pertes en vies humaines, mais le président de la société de la jeunesse communautaire Tembo de Walikale plaide pour une intervention du gouvernement et ses partenaires pour atténuer les dégâts. Kibuya Donatien, joint par Bernardin Nyangi.
Une forte pluie s'est abattue la nuit du samedi au dimanche 7 janvier et qui a fait l'augmentation du débit de deux rivières, l'Oho et la rivière Hombo, faisant maintenant un dégât de plusieurs matériels et inondation de plus de 500 maisons d'habitation, dépôts emportés. Il y a le pont de Chambucha, le pont de Kachacha. Plusieurs écoles ont été inondées, dont l'épée Chambucha, l'épée Hombo, Institut Chambucha, Institut Ushirika et voire même les complexes scolaires de Hombo. Nous demandons au gouvernement national et au gouvernement provincial du Nord Kivu et du Sud Kivu de voir comment venir en aide de cette population qui passe nuit à la belle étoile depuis ce samedi jusqu'aujourd'hui. Et même les cours n'ont pas repris dans ces établissements.
Inondation aussi à Bulungu, dans la province du Kwilu. Ici, plus de 50 familles habitant le quartier Anissé ont dû quitter leurs habitations et sont actuellement sans abri depuis près de 2 semaines. Leurs maisons ont été détruites à la suite de l'inondation causée par des pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps sur cette cité. Ces sinistrés vivent dans des conditions difficiles, selon Nico Ngamandala, un habitant de Bulungu qui alerte. Il sollicite l'intervention du gouvernement, tant provincial que national. Cet habitant de Bulungu s'est confié à Irène Boma.
Je veux vous annoncer le déplacement de la population du quartier Anissé au port Mazinga, dans la cité de Bulungu. Le déplacement est fait suite à l'inondation. L'inondation, c'est suite à ces pluies, à ces fortes pluies qui abattent ces jours ici. Vraiment, il y a eu le débordement là où les gens vivent. L'eau s'est enfoncée. En tout cas, c'est toute la population là-bas qui s'est déplacée. À peu près 40 ou 50 maisons. Ces gens-là, il y a de ceux qui se trouvent à Kintuala, au village de Kintuala. La qui ont dû traverser ici en face, ils sont sans abri, ils mènent une vie difficile. C'est inondé, les maisons se sont écroulées, ça fait déjà 2 semaines passées. Non, mais la pluie continue, ici il continue toujours à pleuvoir. En tout cas, c'est après un jour, il doit pleuvoir, après un jour, il pleut. Je lance le message aux autorités qui m'écoutent pour venir assister la population qui est sans abri, cette population qui mène une vie difficile.
Entre-temps, au sud Kivu, il s'observe une sérieuse pénurie d'eau potable dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu depuis la fin de la semaine dernière. En effet, la conduite principale d'eau située vers le lycée Wima et qui alimente la ville de Bukavu serait en danger. Les habitants auraient construit sur les conduites de la régie des eaux. Le chef technique de la régie des distributions d'eau interpelle la population. L'ingénieur Franck Salumou explique la situation au micro de Rachel Kiesse.
Vous savez que c'est une situation qui devient de plus en plus récurrente où notre conduite est en train de céder entre les lycées Ouima et l'Istène. Donc nous appelons la population vraiment à revenir en civisme et de protéger cette conduite-là parce que c'est la conduite principale qui alimente toute la ville de Bukavu. Si nous arrivons aujourd'hui à ne pas réparer cette conduite, c'est parce que chaque fois qu'il y a ces mouvements de terre et puis ces eaux de ruissellement qui s'enfoncent à cet endroit et qui fragilisent la base de cette conduite. Nous appelons toute la population de Bukavu à revenir à des bons sentiments parce que l'eau, c'est la vie. S'attaquer ou fragiliser les ouvrages de la régie des eaux, c'est vraiment suicidaire pour la population elle-même. Nous lançons un SOS à toutes les autorités compétentes pour que ces sites soient vraiment protégés.
Pour le directeur régional de la Régie des Eaux, la meilleure solution pour qu'il n'y ait plus de panne dans la ville serait de démolir les maisons construites sur ce site et ensuite planter des arbres. Je vous le disais en titre, au Nord Kivu, la commune rurale de Mangina dans le territoire de Beni est vidée de ses habitants. C'est après des violents affrontements qui ont eu lieu hier lundi entre les FARDC et un groupe présumé des miliciens Mai Mai. La société civile locale dénonce l'exécution sommaire par l'armée de 6 civils. Les détails avec Martial Papi Mukeba.
La commune rurale de Mangina, à une trentaine de kilomètres de la ville de Beni, est fantôme. Les habitants ont fui les affrontements entre les FRDC et un groupe présumé des miliciens de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, IPLC. Ils se sont dirigés vers la localité voisine de Kiantsaba et la ville de Beni. La société civile de Mangina dénonce l'exécution sommaire par l'armée des 6 civils pendant les affrontements. Son président, Mongozi Vunyati, appelle à l'arrestation des auteurs de cet acte.
Nous venons de dénombrer 6 corps de civils qui ont été tués. Un étudiant de l'IBTP qui était en vacances à Mangina et son aide-maçon, on les a tués à bout portant. Le papa qui était en train d'étaler les cossettes de manioc à Céline Linzo aussi a été tué. Un autre garçon a été aussi tué à présence de ses parents. Que les coupables de l'armée soient interpellés.
D'autres sources locales rapportent également des actes de pillage d'au moins 10 maisons de commerce et 7 maisons d'habitation dans les quartiers Massimbembe, Kasitu et Linzo. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu la réaction de l'armée par rapport à ces graves accusations. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
En Ituri, pendant ce temps, les forces de la MONUSCO et les FARDC ont déjoué depuis le début de cette année une vingtaine d'attaques des groupes armés dans le territoire de Djougou. C'est à travers des opérations, des patrouilles qui sont intensifiées dans ce territoire. Les autorités coutumières locales saluent ces interventions qui permettent d'étouffer les menaces de ces hommes armés qui ont déjà tué au moins 12 personnes en l'espace d'une semaine. Elles ajoutent que plusieurs mouvements suspects de ces miliciens sont également observés et créent une psychose dans la zone. Isaac Remoyope nous en parle.
Les casques bleus de la MONUSCO et les FARDC sont en alerte permanente depuis les festivités de fin de l'année marquées par des tentatives d'attaque des miliciens. Les derniers cas, un groupe d'assaillants a tiré plusieurs coups de feu lundi proche du site des déplacés de Lala. Ces malfrats ont été repoussés par les casques bleus qui ont répliqué par des tirs de sommation. Plusieurs autres exactions des hommes armés sont signalées dans ces territoires. Un habitant a été tué et 2 autres blessés dimanche à Licha. Les dégâts ont été limités grâce aux efforts de l'armée et des forces de la MONUSCO. Des affrontements ont été également signalés le week-end entre les milices Zaïre et Codeco à Déja. Les bilans étaient d'un mort et des blessés ainsi que la perturbation du trafic sur la route nationale numéro 27. 16 inciviques ont été délogés par les casques bleus qui ont dégagé la route. On déplore aussi l'incendie d'un camion jeudi dernier après les pillages des vivres destinés aux déplacés à Djicho. Les casques bleus se sont déployés sur place et ont récupéré certains biens qui ont été remis aux humanitaires. Des patrouilles nocturnes et diurnes des casques bleus et des FARDC permettent également de rassurer la population face au mouvement des miliciens observés dans plusieurs localités dont Picho, Pimbo, Mbaou, Amé et Fataki. Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Province de Maïndombé, au moins 4 morts, 2 disparus et 2 blessés graves, c'est le bilan officiel de l'incursion du village Mbuntié dans la nuit de samedi à dimanche dernier par les miliciens Mobondo. Nous sommes dans le territoire de Kwamout. Parmi les victimes, 3 hommes et 1 femme. Pour le moment, les blessés sont admis aux soins intensifs au village Fambondo dans le territoire voisin de Bagata, province du Kwilu. Le village Mbuntié est complètement sous contrôle des miliciens. Ce bilan dressé par le député national élu de Kwamout, Guy Musomo, est confirmé par Mayulu Mopi, alias États-Unis, fils du chef de village Mbuntié. L'élu de Kwamout exige une opération de ratissage de l'armée pour déloger ses miliciens. Pendant ce temps, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est arrivé hier lundi à Kamina, dans le Olomami. D'après nos sources, l'objectif est de s'enquérir de la situation qui a prévalu notamment à Luena et à Malimbankulu, où les tensions intercommunautaires ont été signalées. D'autres détails avec Jean Gandou.
Cette première visite de Peter Kazadi dans le Olomami intervient quelques jours après des vives tensions survenues dans la commune de Luena, territoire de Bukama, et dans les territoires de Malimbankulu. À Luena, à la suite de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle, plusieurs ressortissants de l'espace Grand Kassai se sont réfugiés en gare après avoir été chassés pour les uns et menacés pour les autres par les autochtones. Les habitants de Luena leur reprochaient le triomphalisme. S'il y en a qui sont rentrés dans leur maison, d'autres ont pris les trains à destination de l'espace Grand Kassai. Il y en a aussi qui ont rejoint les villes de Kolwezi et Lubumbashi. Au mois de novembre dernier, à la suite de la découverte du corps d'un motocycliste qui aurait été tué par un ressortissant du Kassai, certains jeunes de Malemba avaient organisé une descente punitive dans les résidences des Kassaïens. À cette occasion, 4 personnes avaient perdu la vie, des femmes étaient violées et violentées. Acte décrié par le gouvernement, les ONG de défense des droits de l'homme et les structures qui militent pour la promotion de la femme. D'autres sources rapportent que le numéro 1 de la territoriale pourra aussi se rendre dans ces deux entités pour prêcher la paix et le vivre ensemble. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Nous sommes dans la province de Lomami, signalant la suspension préventive du chargé de la logistique à l'antenne de la CENI Lulu. Eric Kabea Matanda est suspendu depuis le week-end dernier pour 15 jours par le secrétaire exécutif national. Il lui est reproché d'avoir mis à la disposition de certains candidats aux élections des machines à voter ainsi que des bulletins de vote pour leur utilisation frauduleuse. Pour la CENI, ces faits sont inadmissibles et constituent une faute grave, signalant que le chargé de la logistique à l'antenne de la CENI, Lulu, a été surpris par les éléments de la police dans la nuit du 22 au 23 décembre dernier avec des bulletins de vote. Des photos et des vidéos ont défrayé la chronique sur les réseaux sociaux ainsi que des aveux de l'accusé. Province du Tanganyika, 3e jour ce mardi de l'arrêt de travail à la société chinoise Great Lakes Cement, qui produit du ciment à Kabimba dans le territoire de Kalemi. Les agents revendiquent l'augmentation de leur salaire. Des précisions avec Paulin Munanga.
Les agents des GLC dénoncent ce qu'ils qualifient de discrimination salariale. D'après eux, un travailleur congolais au sein de cette société a un salaire dérisoire par rapport à un expatrié chinois ou africain. L'un des agents s'exprime.
À l'Interlac, on produisait 150 tonnes par jour. Mais avec un salaire d'un travailleur, le moins payé avec $200. Avec tous les avantages sociaux si possible. Donc les soins médicaux, les logements, eau et électricité, les études des enfants. Mais à la GLC, on produit actuellement, depuis la relance de l'usine, 4500 tonnes par jour. Et un Congolais qui vous touche $160 par mois. Pourtant, un Chinois, le moins payé à $4000 par mois, et un expatrié tanzanien, burundais, rwandais, il vous touche plus de $800, chose incroyable.
Nous venons d'apprendre de la part de certains agents que la société GLC aurait promis l'augmentation de leur salaire à partir du mois de février prochain. Radio Okapi n'a pas obtenu de réponse de la part des responsables des GLC. Kalemi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Kenya. La suppression des visas d'entrée dans ce pays est effective depuis le 1er janvier. Pour fouler le sol du Kenya, ce pays de l'Afrique de l'Est, il suffit de demander une autorisation électronique de voyage 72 heures avant son départ. Prix du document, $30. Mais la mesure est loin de faire l'unanimité. Les appréhensions concernent notamment les délais d'obtention de ce document. Alors que le pays a annoncé dimanche avoir reçu environ 10 000 dossiers y relatifs, seuls 4 000 au moins ont été traités. En effet, la suppression des visas initiée le mois dernier visait à donner un coup de fouet au tourisme local. Le Kenya veut multiplier par 200 le nombre des touristes afin d'atteindre 4,5 millions de visiteurs d'ici à 2027.
L'invité.
Docteur en géopolitique Augustin Mangemossi salue le déploiement des troupes de la SADC dans l'est de la RDC pour accompagner le gouvernement dans le processus de pacification. Invité de Radio Kapi, il encourage l'État congolais à définir un mandat clair avec ses troupes régionales pour que leur retrait ne pose pas de problème dans l'avenir. Augustin Mangemossi demande également au gouvernement congolais de tout faire pour doter des moyens aux forces de défense et sécurité nationale en vue d'une solution durable à la question de l'insécurité de l'est du pays. Augustin Mangemossi s'entretient avec Blaise Ndonga Lamayanda.
Bonjour professeur Augustin Mangemossi.
Bonjour monsieur. Bonjour.
Les troupes de la SADC sont déployées dans l'est de la RDC depuis le 23 décembre dernier en remplacement des contingents de l'EAC. Quelle analyse faites-vous de l'arrivée de ces soldats?
Oui, au fait, la partie congolaise a trouvé que le bilan de troupes de l'EAC était un bilan mitigé et le gouvernement congolais a préféré faire appel aux troupes de la SADC qui d'ailleurs par nostalgie semble laisser de bons souvenirs aux Congolais. Donc ce qui est tout à fait normal pour un gouvernement de pouvoir solliciter un appui extérieur quand il est dans le besoin. Dès le départ, le mandat n'était pas vraiment bien éclairci. Et puis il y avait aussi les intérêts. Vous voyez, la plupart de pays qui organisent l'EAC, ce sont des pays qui ont des intérêts un peu obscurs par rapport à la réalité qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire les crises ou les conflits, les guerres à répétition sont aussi l'œuvre d'un certain nombre de coparents sur le plan sous-régional, dont l'organisation l'EAC a à son sein des membres.
Qu'est-ce que les troupes de la SADC pourront apporter de plus pendant leur déploiement?
En 1998, bien entendu aussi en 2013, les troupes de la SADC ont eu quand même à démontrer leur sensibilité par rapport à la question de l'insécurité à l'est de la RDC. C'est-à-dire sur le plan nostalgique, la population congolaise pense que ça peut en paix aller avec les troupes de la SADC que les troupes de l'EAC. Or, malheureusement, comme nous devons l'avouer, les États n'ont que des intérêts. Ils n'ont pas d'amis. Il nous appartient à nous, la partie congolaise, le gouvernement congolais, de pouvoir faire monter les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo en puissance pour préserver et sauvegarder l'intérêt national congolais, c'est-à-dire la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ce ne sont que les militaires congolais qui pourront le faire mieux que les autres.
Mais certains pensent que ces militaires ont la volonté, mais ils ne sont pas bien équipés.
Oui, raison pour laquelle le gouvernement doit tout faire pour mettre les moyens à leur disposition. Ce sont les moyens. Si la volonté y est, mais il faut faire suivre la volonté par les moyens. Pas seulement les forces de défense, aussi les forces de sécurité. Tous, ils ont besoin de moyens. Nos services de renseignement doivent travailler pour collecter les informations et aider l'État à pouvoir parer à toute éventualité. Donc, il y a un certain nombre de rapports qui concourent à la sécurité nationale. Ok, l'État doit y veiller scrupuleusement pour permettre aux Congolais de pouvoir vaquer librement dans cette partie de la République en paix.
Vous êtes un docteur en géopolitique. Vous ne craignez pas que le changement de ces deux forces puisse engendrer les conflits entre ces deux organisations sous-régionales, l'EAC et SADC?
C'est là que j'appelle de mes voeux que la diplomatie congolaise puisse traiter ces dossiers. Parce que, comme vous le dites, la RDC est membre de l'EAC au même titre que de la SADC. Éventuellement, il y aura des frustrations autour de la question. Il appartient à la diplomatie congolaise de pouvoir arrondir les angles.
Professeur, plus de 2 semaines après le déploiement des soldats de la SADC, quel message lancerez-vous à la population congolaise?
À court terme, l'État congolais a besoin des alliés. L'État congolais a besoin d'un appui extérieur. Il appartient aussi à l'État congolais de pouvoir comprendre que, à moyen terme, les populations de la RDC ne pourront plus supporter les forces étrangères sur les territoires congolais. Donc, la partie congolaise doit commencer à travailler dès à présent à rattraper les temps perdus. Il faut qu'il y ait aussi un mandat clair de la SADC.
Professeur Augustin Mangimossi, nous vous disons merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité est docteur en géopolitique. Il répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Par ici prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Supervision de Martin Sebujangwe. À la mise en onde, Mimi Kindou. Merci d'avoir été des nôtres.